Bac FM, vous êtes sur le 106.1, je vous le disais tout à l'heure, j'accueille Pierre Hotzenberger et Théo Picot, vous êtes tous les deux fondateurs, créateurs d'applications, bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors je me tourne vers toi Théo, t'as bientôt 18 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et tu as créé pendant le premier confinement, à l'époque t'avais 16 ans, t'as créé un jeu mobile.
Oui, c'est ça. Oui.
Comment il s'appelle?
Alors il s'appelle Les Aventures de Gus.
Et c'est quoi le principe de ce jeu finalement?
Donc c'est un platformer. C'est-à-dire un contrôle de personnage sur plusieurs niveaux. Il faut l'amener à terminer ses niveaux pour qu'il gagne de plus en plus de pièces pour pouvoir progresser dans le jeu.
Et comment t'es venue l'idée de créer ce jeu, en fait?
Eh ben, un peu par
c'est
hasard.
C'est l'ennui du confinement, un peu.
Ouais, c'est ça, c'est l'ennui du confinement, en fait. C'est par hasard, quand on a, pendant le confinement, au tout début, j'ai voulu reprendre un peu la programmation et de fil en aiguille, ça m'a amené à créer un jeu de plateforme, ouais.
Mais t'as toujours été passionné par, par l'univers du jeu vidéo et, et par tout ça. Pour revenir un petit peu sur le jeu, donc, l'univers de Gus, c'est ça?
Les aventures de Gus.
On incarne un petit extraterrestre, c'est ça? Et il y a trois modes.
Alors, il y en a trois, oui, maintenant, un peu plus. Le premier, donc, un mode classique. On parcourt des niveaux classiques, de plus en plus difficiles. Il faut collecter des coins, la monnaie du jeu. Il y a des petites péripéties aussi dedans. Un mode multijoueur qui a été retravaillé donc depuis par rapport à la dernière fois. On peut jouer à 2 et bientôt à 4. C'est un gros morceau. Et maintenant aussi un course contre la montre, un temps imparti pour faire un niveau. Et il y a même maintenant un créateur de niveau, c'est-à-dire qu'on peut créer ses propres niveaux directement.
C'est quoi les différentes étapes qu'on a à parcourir, un petit peu comme un jeu vidéo finalement, quand on crée un jeu mobile?
Quand on crée un jeu mobile, donc déjà il faut se poser la question de quel type de jeu on va créer, si on va s'orienter vers du combat, du RPG, etc. Après, il faut trouver les ressources, c'est-à-dire les graphismes, tout ce qui va être le bonhomme, etc. Et après, vraiment, on commence à programmer, on fait des tests, et une fois que tout ça est fait, on peut envisager une publication.
C'est quoi les difficultés que tu as pu encourir quand tu as créé le jeu, et où tu t'es dit, là, ça va être coriace comme
quand
morceau.
Il a fallu gérer le stockage, premièrement. C'est-à-dire comment on stocke les données. Ça avait été, quand on apprend par soi-même, c'est donc il est codé en JavaScript, ça avait été compliqué de trouver la bonne méthode pour que ce soit rapide et que ça n'entrave pas les difficultés du joueur, c'est-à-dire que ça ne soit pas pénible pour le joueur le temps de sauvegarde.
Ouais, parce que tu as tout fait tout seul, tu t'es entouré de personnes ou tu as tout géré de A à Z tout seul?
Au début, j'étais seul. Pour les graphismes, c'est un artiste néerlandais qui propose ses graphismes gratuitement
libre de droit.
Libre de droit, etc. pour pas avoir de tout ça. Ouais. Okay. Et après, maintenant, il y a des gens qui m'aident ponctuellement pour me dire « Ah, ça, c'est bien, etc. Et il faut changer ça, tout ça. » Donc, des testeurs.
Tu me disais hors antenne que le jeu a 2 ans, c'est ça?
Oui, 2 ans aujourd'hui.
Il a 2 ans aujourd'hui, donc là, il est en ligne à l'heure actuelle. Il te rapporte de l'argent?
Alors... Les applications.
Combien?
Alors, combien? On peut pas donner de chiffres là-dessus parce que c'est extrêmement variable d'un mois à l'autre.
Mais tu gagnes quand même de l'argent grâce aux.
Quasi pas.
Grâce
la
à ça,
publicité.
Un minimum,
ouais. La publicité dans les jeux, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de pubs vues d'un coup. C'est un système qui est complexe, mais ça rapporte pas beaucoup par pub, donc c'est très peu.
Et c'est toi qui démarches cette pub qui vient sur ton jeu ou après c'est un autre organisme qui gère ça?
Alors les pubs sont placées par les développeurs.
D'accord.
Un autre organisme gère le reste.
Et c'est toi qui as dû contacter un développeur ou c'est...
Non, pas du tout. C'est des services, par exemple, je pense, il y a plusieurs grandes boîtes qui proposent ça. Par exemple, je pense à Google.
D'accord,
qui propose
d'accord.
Via
c'est
un outil qui s'appelle AdMob. Comme par exemple pour les bases de données, tout ce qui va être stockage en ligne, Google propose aussi Firebase, par exemple.
Et en 2 ans, tu sais combien tu as eu de téléchargements du jeu? Combien de joueurs ont essayé de suivre ces aventures, finalement?
Oui,
de ce
une
petit
fourchette, on doit être entre... alors maintenant, plus proche du millier de téléchargements, même un peu plus. Donc
d'accord.
Ça va bien.
Et maintenant, c'est quoi alors l'objectif? C'est de continuer d'améliorer, d'enrichir le jeu? Te tourner vers un autre projet et de dire voilà, ça c'était la première étape, maintenant on va essayer de faire autre chose?
Alors, il y avait un moment où j'avais pensé arrêter le développement, parce que je pensais que tout avait été fait dedans, mais pas du tout. Maintenant, 2 autres jeux sont en préparation, dont un pour le début mi-juillet.
On peut avoir des indices? Quoi, c'est la petite sœur de Gus ou
pas?
C'est
du tout, ça n'a rien à voir. C'est, je dirais juste, des canards et un pistolet.
Oula, d'accord, c'est un jeu de ball-trap?
Non, c'est pour dégommer des canards.
Tu joues à quoi, toi, en ce moment?
En ce moment, un jeu que j'apprécie énormément, qui est disponible sur Steam, c'est Transport Fever 2.
D'accord.
C'est un jeu de gestion de transport.
Je suis complètement nul en jeu vidéo. Je me suis arrêté à Doodle Jump, alors vraiment.
Ah oui. Mais encore, des fois, on en voit encore. Mais ce jeu-là, c'est un jeu de gestion. Il faut gérer son réseau de transport. C'est bien complet et vraiment sympa à faire.
D'accord. Donc, c'est dans un univers différent de ce que toi,
tu as fait, finalement. Ouais, c'est totalement à côté. C'est de la simulation, donc ça n'a rien à voir avec...
Ça t'intéresserait d'aller aussi dans un univers de création de jeux que toi, tu n'as pas encore... fait du coup, parce que là c'est de l'animation où on parcourt un univers, on va dire, et faire un jeu dans lequel il y aurait peut-être une sorte de gestion, par exemple.
Pourquoi pas, après c'est une autre difficulté, hein. C'est pas la même chose de faire un platformer alors qu'un jeu de gestion,
travail.
Il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps à mettre pour que ce soit vraiment complet et proposer quelque chose de bien. Mais oui, pourquoi pas si un jour...
Là, tu es encore en études à l'heure actuelle.
Oui.
Et tu t'orientes vers des études dans ce domaine-là ou pas du tout ?
Pas du tout. Je pense que ça doit rester une passion de créer ça.
D'accord.
Ça se fait à côté. Ouais.
Tu veux pas en faire ton métier du tout ?
Je pense qu'il faut mieux le cumuler en passion et avoir un autre métier à côté.
Tu nous rappelles le nom de ton jeu et sur quoi on peut le retrouver ?
Oui.
Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui, là, sont quelque part et qui ont envie de jouer tout de suite.
C'est Les Aventures de Gus. On lui a trouvé un nom récemment et il est disponible sur le Play Store, donc le store de Google.
Eh ben,
pour les appareils Android.
À vos téléphones, si vous êtes Apple, tant pis pour vous, faut aller...
Ah non, mais Apple, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher.
Faut aller à la Fnac changer de téléphone. Merci Théo, tu bouges pas ?
Oui.
On reviendra tout à l'heure. Je vais me tourner maintenant vers le créateur, le cofondateur de Cocodico. Bonjour Pierre.
Salut.
C'est quoi Cocodico ?
Cocodico, c'est la première application mobile dédiée aux produits fabriqués en France, à l'écosystème du Made in France.
C'est une histoire familiale, c'est ça ?
Ouais, en quelque sorte. C'est parti d'une histoire de vie, parce qu'avec effectivement ma compagne Sophie, on est arrivé dans la Nièvre pour la naissance de notre premier enfant, puis aussi parce que moi, ça faisait quand même 20 ans que je bossais ici, et avec une compagnie de théâtre avec laquelle on a monté un théâtre. Et en fait, en arrivant de Paris, on s'est rendu compte que la consommation de produits a changé complètement. Enfin, notre vie a vraiment basculé, parce qu'on avait beaucoup plus le temps. Quand on était à Paris, en fait, on n'avait juste pas le temps de faire quoi que ce soit. On arrivait
à 8h. Le rythme de vie est complètement différent. Métro, boulot, dodo, hein, c'est clairement...
Ouais, peut-être pas métro, boulot, dodo, mais métro, boulot, apéro, sortie, cinéma.
Aussi, ouais.
Enfin, voilà. Et puis, en fait, tu passes à 8h, moins 5, acheter un truc à grignoter, puis tu te poses pas la question. Et ici, t'as tellement de ressources, tellement de gens, tellement d'acteurs que tu te poses les questions. Comment, finalement, on peut faire mieux ? Et donc, on a réussi sur l'alimentaire, sur l'hygiène, mais pas forcément sur les produits du quotidien, sur les produits manufacturés. Donc on a essayé de trouver une solution.
Et votre solution, elle a été trouvée en créant votre application. Mais avant ça, vous avez créé la bande à Coco, qui était intégrée au village Baïséa, c'est ça ?
Ouais, alors la première étape, ça a été d'être incubé à DKBFC. DKBFC, c'est un incubateur régional, donc qui est basé à Dijon. Donc BFC pour Bourgogne-Franche-Comté, qui est en fait un incubateur qui sélectionne des projets sur leur lien avec la recherche. Et nous, on a tout un pan R&D à la bande à Coco sur les habitudes de consommation et sur comment faire que la transparence soit plus complète sur les produits manufacturés made in France. Donc on a cette partie étude qui va sortir là d'ici un mois. Et puis on a aussi le côté développement de l'outil.
Et comment vous faites pour sélectionner les marques ? C'est quoi vos critères pour dire cette marque, elle rentre dans notre application ?
C'est la loi. C'est-à-dire que nous, on se confère à la loi. C'est-à-dire que pour schématiser, en gros, un produit fabriqué en France, c'est 50% du prix de revient doit retomber dans l'économie française. La dernière étape doit être faite sur le territoire. Voilà. Après, il y a des nuances. Il y a des produits plus ou moins fabriqués en France, on est d'accord. Nous, l'objectif, c'était de donner les clés aux consommateurs, de dire ce produit-là est éligible à l'appellation Made in France. Donc, l'appellation Made in France, c'est toujours du déclaratif, sauf quand on est labellisé, mais sinon, c'est la plupart du temps du déclaratif. Donc, donc nous, on met en avant ces produits-là au travers de l'appli.
Ouais, parce que avec chaque produit, il y a des infos, il y a tout un aspect aussi très pédagogique, en fait, sur le produit que vous mettez
en avant.
Ouais,
l'idée, c'est de mettre tout l'écosystème en place, du fabricant jusqu'à la marque ou l'artisan, même la boutique, où on peut l'acheter proche de chez soi. Ou alors la redirection directement vers la boutique, prioritairement la boutique de la marque, histoire d'avoir un circuit le plus court possible. Et puis quand c'est pas possible, ce sera c'est vers des revendeurs.
Cocodico, c'est combien de marques en catalogue à l'heure actuelle?
Bah là, donc là, on tourne autour de 700 acteurs, donc environ 500 marques. Ensuite, on a des boutiques en ligne, des labels, et on a environ 180 boutiques.
Et de visites par mois, ça représente combien? Parce que là, ça fait un an, donc.
Ouais, alors ça fait un an. Donc l'été dernier, on l'a plutôt testé, on l'a plutôt éprouvé. On a eu une belle période à l'automne. Là, on en a environ à 7000 téléchargements, toutes plateformes confondues. Mais en fait, on fonctionne avec une PWA, donc en JS aussi, en JavaScript aussi. Et en fait, on a la possibilité soit d'avoir un site web. D'accord. Et ce site web est intégré aux applications.
D'accord, ok.
Mais bon, on essaye de mettre en avant l'application parce que ça nous permet ça permet aux utilisateurs d'être notifiés quand on fait des news, ça permet...
De recevoir le message sur leur téléphone qui
exactement,
fait que...
Exactement, ouais. Ça permet de suivre des marques, ça permet tout ça, quoi.
Et justement, sur l'application, il y a une mise à jour depuis mai qui est proposée et lorsque l'application, cette mise à jour est faite, elle apporte quoi cette mise à jour? J'ai vu qu'il y avait un label Nièvre, c'est ça?
Ah oui, alors au départ, en fait, l'appli, on était sur vraiment un moteur de recherche avec quelques actus de temps en temps, mais on était vraiment sur un moteur de recherche produit. Et l'idée avec cette deuxième version, parce qu'on s'est rendu compte après Noël qu'en fait, on avait cartonné à Noël, les gens cherchaient des produits, mais là, c'était un peu plus rare. Le trafic baissait parce qu'en fait il y avait peut-être moins d'attractivité sur la période et nous on donnait moins la possibilité aux gens de venir juste pour naviguer, s'informer. Donc dans cette deuxième version, on a surtout beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus de sélection, on a beaucoup plus de vie, on a des suggestions de produits, c'est-à-dire que si on a un produit qui nous plaît, on le met en favori, après on a des suggestions pour avoir des produits un peu similaires qui compléteraient les produits. Enfin voilà, beaucoup plus d'interactivité, des nouveautés, des flux de nouveautés, puis on a aussi des nouveautés au niveau des professionnels, effectivement, donc on va avoir des labels. Le premier qu'on a été voir, c'était naturellement Label Nièvre, parce que comme on est à Nevers, nous on avait envie, alors c'est une marque territoriale. Ils disent que c'est pas un label, c'est
ouais, oui, territorial. Oui.
L'esprit, c'est de dire ça vient du territoire. Donc nous, on a été vraiment les voir en premier parce que l'idée, c'est quand même de faire le lien. On est sur un territoire, on coche ce label-là et on va avoir les marques qui appartiennent à ce label-là. Donc là, on essaye de travailler avec d'autres marques territoriales et comme fabriquées en Corrèze, fabriquées en Bretagne, fabriquées à Paris. Enfin, on essaye de faire des liens avec eux. On essaye de faire des liens aussi avec les labels Origine France Garantie. Mais et puis on a aussi mis à disposition des pros tout un système d'automatisation, c'est-à-dire que là on est en train de sortir nos API, ce qui fait qu'ils vont pouvoir connecter leur boutique en ligne, et une fois que leur boutique en ligne sera connectée directement à notre appli, ils n'auront plus besoin de faire aucune gestion. Dès qu'ils ajouteront un produit chez eux, ça arrivera chez nous, quoi.
Justement, pour revenir sur ce que vous disiez là, l'Origine France et le Made in France, vous, votre application, qu'est-ce qu'elle garantit? L'Origine France ou le Made in France?
En fait, le fait est que Origine France Garantie ne va pas garantir non plus que les matières premières sont françaises. Origine France Garantie fait un audit des marques et un audit des produits, ce qui fait que on est sûr que ça respecte bien la loi. Parce qu'en fait, dire qu'on est made in France, c'est déclaratif. Donc Origine France Garantie, ils vont un petit peu plus loin quand même que la loi, ils font des recherches très poussées. Mais dire que c'est Origine France ne veut pas dire forcément que les matières premières sont françaises. Puisque, par exemple, il y a énormément de matières premières, notamment le coton.
Qui sont impossibles de trouver en France.
Pour l'instant, on n'en a pas. Alors, il y a des tentatives. Mais très clairement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Sur des aciers, enfin, sur des métaux, enfin, c'est pareil.
Sûr, ouais.
Donc, en fait, l'idée, c'est de coller à la loi, de répondre aux interrogations. Et pourquoi pas d'aller plus loin dans le futur en disant, les matières premières, c'est tant, etc., etc. Mais ça, je veux pas trop en dire. Mais, après, sur Origine France Garantie, hier, on a eu la réponse comme quoi on était labellisé Service France Garantie. Donc, en fait, Origine France Garantie, le label a sorti il y a à peu près un an et demi, l'appellation Service France Garantie pour démontrer que les services aussi, en fait, sont faits sur le territoire. Donc nous, on a été audité et on a été labellisé Service France Garantie, comme quoi le développement se fait sur le territoire et que nos prestataires sont sur le territoire.
Pour que votre application, elle reste dans l'esprit premier que vous avez voulu lui apporter tout en prenant de l'ampleur et en grandissant, est-ce que c'est très important de rencontrer aussi les acteurs locaux ou comme tous les acteurs que vous pouvez mettre en avant sur votre appli?
Ouais, ça se passe principalement à la grande messe du Made in France, donc au MIF Expo en novembre, où on est présent chaque année, on sera présent cette année également. On était présent chaque année l'année dernière, parce qu'en fait c'était... C'était la première année où on a existé. Mais oui, c'est hyper important, localement et même nationalement. Après, c'est compliqué, hein. On a près de 500 marques, on peut pas je pense que je les connais toutes, mais,
oui, mais c'est compliqué de tous les rencontrer.
Mais
ouais,
on peut pas les rencontrer tous. On en rencontre un maximum, ouais, effectivement, au MIF Expo. Mais c'est important de garder sa ligne directrice. On discutait avec mon associé parce que quelqu'un lui a dit un jour, mais votre appli, elle est dispo à l'étranger. Moi, pareil, j'ai reçu des mails en me demandant si on pouvait avoir accès à l'appli en Australie, par exemple. Et en fait, nous, au départ, c'était pour essayer de favoriser le circuit court.
Oui, français, on voit donc...
Ouais, mais en fait, notre objectif principal, c'était effectivement d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de délocalisation, que les emplois soient pérennes et que les conditions des travailleurs soient respectées. Quand on achète un produit, c'est important de savoir que la personne qui l'a fabriqué, en fait, a travaillé dans des bonnes conditions. Mais c'était aussi à forte valeur environnementale. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est de faire en sorte que le produit fasse le moins de kilomètres possible. Et c'est vrai qu'on s'est...
Il y a aussi un combat écologique, en fait.
Bien sûr, c'est ça, mais c'est hyper important pour nous. Et c'est même, objectivement, la raison principale. Ce qui est bien avec le Made in France, c'est que ça coche toutes les cases. Ça coche la case sociale, la case emploi, la case environnement. Et nous, c'était hyper important pour nous, cette valeur environnementale. Et justement, dans notre étude qu'on va sortir là, au mois de juin, on se rend compte que pour les gens, consommer local, c'est consommer fabriqué en France, et que c'est important, l'environnement.
Alors, est-ce que ça n'a pas aussi un petit peu pris de l'ampleur grâce au Covid? Qui a amené aussi un élan du Made in France et alors, du consommer...
Oui, mais attention, c'est fragile. Ça. C'est fragile parce que on se rend compte qu'il y a eu une grosse poussée sur les marchés, les vracs, les produits locaux, que pendant 2 ans, on a augmenté la production, et que là, la production, elle a un petit peu de mal à s'écouler. Hein. Donc, c'est pas un combat gagné d'avance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une vraie volonté. Nous, notre étude, la première partie, elle a été faite en plus pendant le confinement, et un petit peu avant et pendant le confinement. Donc oui, c'est il y a un élan là-dessus. Mais moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on me demandait si mon appli était valable à l'étranger, mais pour faire en sorte que les gens puissent exporter plus facilement et que les... Mais en fait, c'était pas ça notre idée au départ. Notre idée au départ, c'était de consommer local. Et est-ce que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les Australiens ou les Américains ou même les Européens achètent des produits qui font des milliers de kilomètres pour chez eux? Je sais pas, mais je suis pas sûr.
Et alors, c'est quoi la solution à ça?
Non, la solution, c'est de faire en sorte qu'on puisse effectivement favoriser un maximum des produits locaux. Après, effectivement, quand on est à Menton, consommer des produits italiens, ça fait environnementalement, c'est complètement valable. Après, nous, il a fallu qu'on délimite un territoire, il a fallu aussi qu'on parte sur un principe aussi national, parce que c'est aussi important de dire que qu'on soit à Lille, justement, ou à Strasbourg, ou à Menton, on fait partie du même pays, et donc on peut aussi s'entraider. Mais une appli Made in Europe serait complètement valable aussi, hein, à terme. Franchement, moi, ça me choquerait pas du tout.
Donc là. ça amène à ma prochaine question, c'est quoi l'avenir de l'application?
Alors l'avenir de l'application, on dit souvent que l'objectif c'était au départ de devenir le Yuka du Made in France. Je pense que c'est ça.
Alors Yuka, pour expliquer, c'est une application qui donne la valeur nutritionnelle, on peut dire, de chaque produit quand
exactement,
on va l'acheter
ouais.
En magasin.
Ouais, voilà, on scanne un code barre et on a en gros sa valeur nutritionnelle, et puis ou alors on voit les produits toxiques qui sont dedans,
voilà,
etc.
Ça, ouais.
Puis maintenant il y a même un score environnemental. Je pense que c'est ça notre objectif. Je pense que notre objectif, c'est d'essayer de, quand on trouve un produit quelque part, et qu'on a envie d'en savoir plus sur son origine de fabrication, sur sa composition, sur comment il a été fabriqué. Je pense que vraiment l'objectif final, c'est ça. C'est de référencer le plus possible, tous si possible, ça sera compliqué, mais pourquoi pas, tous les produits fabriqués en France, et de pouvoir renseigner les gens sur quand ils scannent un produit, leur dire ce qu'il y a dedans, comment c'est fait et où ça.
Et on le souhaite pour Cocodico.
Grave.
Je me tourne vers toi maintenant aussi, Théo, ça va être une question commune. Vous avez tous les deux choisi dans vos projets relativement différents une plateforme multimédia. Est-ce que c'est compliqué de s'adresser à tous les publics quand on a une plateforme comme la vôtre? Toi, Théo, peut-être que tu t'adresses à un public quand même relativement plus jeune, mais si ton objectif est de viser des personnes plus âgées qui n'ont pas forcément accès à tout ça, est-ce que c'est peut-être plus compliqué?
Non, pas du tout, parce que j'ai une vision tout public qui fonctionne bien, parce que j'ai des gens de tous les âges qui y jouent un peu. Hein. C'est aussi, ça m'avait surpris au début, mais finalement, ça fonctionne bien. Et les plateformes aujourd'hui, c'est assez simple hein, de télécharger une appli, un jeu, etc. Il y a juste à appuyer sur le bouton installer et tout se met tout seul. Donc, c'est pas un frein, non, au contraire.
Nous, pour l'instant, on garde un peu notre site web parce qu'effectivement, on sait que les personnes moins jeunes, sont effectivement assez friandes de sites web et moins d'applications.
Et n'ont pas forcément encore même le téléphone nécessaire pour avoir l'application.
C'est ça, ouais, c'est sûr. Mais à terme, je pense qu'on restera dans l'applicatif. Et puis quand les gens ont envie, ils y arrivent. Enfin, c'est effectivement assez simple. Je pense que la plus grosse contrainte aujourd'hui, c'est quand même le mot de passe.
Retenir son mot de passe.
Voilà, c'est pas télécharger l'appli.
C'est vrai. On voit que maintenant tous les domaines ils se mettent à l'informatique. Les journaux régionaux, eux aussi, ont leur version même smartphone. Est-ce que c'est l'avenir un petit peu de tout dématérialiser? Est-ce qu'il y a un effet de mode qui vient aussi petit à petit là-dessus?
Ouais, je sais pas. Moi, je... On tenait, c'était vraiment hyper important pour nous, par exemple, de mettre une carte de revendeur. Parce que moi, j'aime bien quand je trouve un produit aller voir à quoi il ressemble. Quand c'est un jeu ou quand c'est un cadeau, par exemple. Après, quand j'achète des choses pour moi, ça me dérange pas d'acheter en ligne. Mm-hmm. Mais quand je fais un cadeau ou un bouquin, par exemple, je vais toujours le voir avant, je vais l'acheter directement au magasin. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Après, c'est quand même une facilité incroyable de pouvoir avoir dans son téléphone et dans la poche, n'importe où, n'importe quand,
le catalogue. Ouais, non, mais quand même. Ouais,
nous, on a 30 000 produits presque maintenant. Enfin, 30 000 produits à mettre à jour au quotidien. Nos prix se mettent à jour en temps réel. Si quand on référence une marque, et là, on a référencé par exemple un gros acteur qui est la Redoute, qui revend des produits fabriqués en France, ces produits changent tous les jours.
Alors ça, c'est pareil, les prix sont évolutifs sur votre application en même temps que sur le site du revendeur.
Exactement, toutes les nuits, tous les midis, ça se met à jour. Et ça, pour nous, c'est impossible dans un catalogue papier. Mmh. Et puis, les plateformes, les marketplaces ou les boutiques comme ça, elles mettent à jour leurs produits tout le temps. Donc c'est hyper important pour nous de suivre et le seul moyen c'est de le faire avec nos API.
C'est
inimaginable en papier.
C'est un des moyens.
Ouais, je partage quand même son avis hein, parce qu'il y a certains sur les produits tout ça, il y a des trucs faut voir parce que même si on va vers une grosse dématérialisation de beaucoup de choses, c'est-à-dire le nombre d'applications mobiles augmente fortement. On en voit de plus en plus de tout type, mais il faut quand même aussi voir le produit et voir ce qu'on achète sur certains trucs. Après, c'est vrai que ça apporte des facilités incroyables. Hein. Si sur mon jeu, par exemple, moi, je veux changer, par exemple, dans ma boutique, le prix d'un petit skin, je le fais, ça rentre, c'est immédiat et les gens le voient direct.
Donc toi aussi, tu vends quand même quelque chose via ton jeu mobile, tu vends des possibilités d'évolution plus rapide dans l'univers du personnage.
Ça reste quand même entièrement gratuit, j'ai voulu un jeu totalement gratuit.
D'accord.
Tout c'est gratuit, mais avec la monnaie du jeu qui sont gagnées au niveau, ouais pareil, c'est bon. Et c'est facile, par exemple, en un clic, ça change le truc. Hein.
Des applications qui arrivent, il y en a de plus en plus, c'est vrai, il y en a une aussi qui va arriver dans les semaines qui arrivent juste avant de se quitter. Je vous propose d'écouter un troisième créateur d'applications, il s'appelle Marius, il est originaire de Moulins-en-Gilbert, une ville que je connais très bien. Ils sont en préparation très avancée avec sa compagne Solène de leur application qui s'appelle Fridge. Ils ne pouvaient pas être présents dans les locaux de Bac FM à un entretien téléphonique où ils expliquent l'idée de cette appli et l'objectif. Salut Marius.
Bonjour Théo.
C'est quoi Fridge?
Alors Fridge, c'est un projet qui s'adresse à tout le monde et qui a pour mission de réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Ça prendrait la forme d'une application qui permettrait d'acheter ou de revendre les aliments qu'on a en trop chez soi.
Donc c'est une plateforme éco-responsable en fait.
C'est ça, exactement.
Cette idée, elle vous est venue comment finalement de créer cette application avec ce principe-là?
Alors l'idée, elle nous est venue quand on était encore étudiants. Donc ma copine et moi, il nous arrivait quelquefois de jeter des aliments. Donc on a cherché une solution. On a vu que les causes étaient souvent liées à nos habitudes, nos modes de vie, donc soit la fatigue du travail, le manque de temps, les sorties ou je ne sais quoi. Et en s'intéressant plus en détail à la situation, on a remarqué que le problème était bien réel et ça touchait vraiment tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a des applications par exemple comme Too Good To Go qui permettent aux commerçants de proposer leurs invendus à prix réduit. Mais il n'y a aucune solution du même style
pour les particuliers. Ouais.
Sauf que la plus grosse partie du gaspillage, elle a lieu à la maison. Donc on a imaginé une solution simple qui pourrait aider tout le monde et qu'on a appelé Fridge.
Alors ça s'exprime par quelques chiffres que vous mettez en avant, notamment sur votre site, mais aussi sur Facebook. On pourra revenir tout à l'heure aussi sur votre activité sur Facebook. 159 € par personne et par an, ça c'est ce qui est jeté à la poubelle. Ça représente 50 repas par personne et par an. Également, et donc 20 kilos par personne aussi et par an jetés de nourriture, c'est les chiffres que vous mettez en avant, c'est énorme et c'est aussi à alerter.
C'est ça, ça peut surprendre, enfin, ça nous a surpris la première fois qu'on a vu tout ça, et donc aujourd'hui c'est pourquoi on se lance dans ce combat.
L'objectif de mise en ligne de cette appli, il serait pour quand?
Alors l'objectif de mise en ligne, donc nous on aimerait que ce soit le plus tôt possible bien sûr, mais avant on a des étapes importantes à franchir. Actuellement, on souhaite faire découvrir le projet à tout le monde et surtout, on veut recevoir un maximum de retours, autant positifs que négatifs. Car comme c'est une application qui veut aider tout le monde et qu'on veut offrir la meilleure version possible, on a besoin de connaître les besoins et les attentes de tous. Pour nous aider, vous pouvez jeter un coup d'œil à notre site web, Fridge, F-R-I-D-J, et surtout, partagez-nous notre avis.
Voilà, parce que vous, vous voulez l'avis de tout le monde pour après voir comment elle marcherait, parce que finalement, vous avez déjà tout en tête ou c'est un petit peu encore en travaux sur la façon dont elle fonctionnerait, cette appli?
Nous, on a une bonne idée en tête de quelle forme elle prendrait, mais après, comme je l'ai déjà dit, c'est une application qui est pour tous, et donc on veut qu'elle s'adapte aux attentes de tous.
Et on peut aussi réagir sur Facebook, où vous êtes relativement actif. Vous partagez régulièrement des infos, que ce soit économiques ou même sociétales et même environnementales. Vous avez informé sur les abeilles à l'occasion de la Journée mondiale pour la nature et la biodiversité également. Quel est le rapport avec le gaspillage alimentaire, en fait, tout ça? Ça, c'est lié?
Oui, bien sûr. C'est que aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, ça a trois effets. Éthique, économique et environnemental. Premièrement, c'est déjà un geste que la personne... Et aujourd'hui, c'est quand même triste de jeter alors que certains sont dans le besoin. Deuxièmement, c'est aussi une grosse perte d'argent, mais aussi de ressources. Des terres cultivées inutilement, des personnes qui travaillent pour créer quelque chose qui va être jeté. En plus de cela, la gestion des déchets, ça a un gros coût. Et pour finir, c'est aussi un gros problème environnemental. On essaye d'informer là-dessus, car le gaspillage alimentaire, ça produit beaucoup de pollution et ça a encore beaucoup d'autres effets néfastes. Nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'en parler, car en parler, c'est déjà commencer d'agir.
Est-ce que le mouvement anti-gaspi, c'est quelque chose qu'on vous a éduqué tous les deux relativement jeunes, ou ça vous est venu plus tard avec votre expérience, avec certaines rencontres ou autres?
Alors bien sûr, je pense que comme tout le monde d'ailleurs, on a tous été sensibilisés plus ou moins au gaspillage quand on était petits. Mais après, c'est quelque chose qu'on a développé surtout tous les deux, à force de vivre ensemble.
Et de manger différemment aussi, j'ai cru comprendre.
C'est ça. Donc comme on mangeait différemment, on avait beaucoup de produits différents, et donc on rencontrait pas mal ce problème.
Fridge, c'est l'application donc éco-responsable où vous pourrez échanger. On communiquera sur le Facebook de l'émission toutes les infos de sortie. Marius, si tu voudrais rajouter quelque chose pour les auditeurs qui nous écoutent, ce serait quoi?
Alors aujourd'hui, j'espère que l'application elle va plaire au maximum de monde. Et surtout, envoyez-nous votre avis, soit sur les réseaux, soit par email. On est ouvert à tous et donc on vous attend.
C'est le plus important et c'est comme ça que cette application prendra de l'ampleur. Merci Marius.
Merci Théo.
Fridge, c'est le nom de l'application à surveiller dans les semaines à venir et n'hésitez pas à aller sur Facebook et leur site internet pour plus d'infos et donner votre avis. Il est temps maintenant de dire au revoir à mes invités. Théo, ton application est téléchargeable donc sur Android et ça s'appelle...
Les aventures de Gus.
Voilà, donc à vos téléphones. Merci Théo d'être venu sur Bac FM. Cocodico, pour des achats made in France sans erreur possible, téléchargeable également sur toutes les plateformes, c'est fondé par Pierre et sa compagne Sophie. Merci Pierre de nous avoir présenté cette appli.
Merci de nous avoir reçus.
Bac FM, on reste ensemble avec le meilleur du son pop rock. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Bye.